Chapitre 10. Le lendemain matin, quand elle se rend à son travail, elle a les nerfs tellement à fleur de peau qu'elle a l'impression d'être toute hérissée de piquants effilés. Maintenant, toutes les autres savent que cela fait 3 jours qu'elle n'a pas revu sa fille et elles font tout pour l'éviter. Quelques-unes ont l'air de songer à l'assurer de leur soutien ou de quoi que ce soit d'autre, mais elles sont trop prudentes pour l'approcher. Dans la salle de repos, pendant la pause café, toutes les conversations tournent autour d'Augie Williamson. À présent, les journalistes ont reconstitué certains faits de cette nuit-là. La voiture d'Augie Williamson, une Rambler de 1963, est tombée en panne dans Columbia Road. Cela plaçait Augie devant 2 options, dont aucune n'était idéale. La première consistait à poursuivre à pied dans Columbia Road sur plus 1,5 km jusqu'à Upham's Corner, puis prendre Dudley Street et là, il serait parmi les siens. Mais cela signifiait devoir marcher dans un quartier blanc sur une bonne distance pour gagner un quartier légèrement mixte avant d'en atteindre un à majorité noire. La seconde option, celle qu'il a choisie, était de marcher quelques centaines de mètres jusqu'à Columbia Station. Là, il pouvait emprunter la ligne de métro en direction du sud, en espérant ne pas rencontrer de bandes de blancs pendant le trajet de 4 stations qu'il y avait entre Columbia et Ashmont, où il prendrait un bus jusqu'à Mattapan, et là, il serait de nouveau en sécurité parmi les siens. C'est cette option qu'a choisie Augie Williamson. Mais pendant ces quelques centaines de mètres, ou bien il a dit ce qu'il ne fallait pas aux mauvaises personnes, ou bien il a essayé de faire un coup tordu de nègre comme voler une voiture pour rentrer chez lui, ou bien braquer quelqu'un pour pouvoir se payer un taxi. Et il a eu ce qu'il cherchait. C'est en tout cas ce à quoi se résument les théories des filles dans la salle de repos. Mary Pat lit les journaux pendant que les autres bavardent. Augie Williamson rentrait chez lui après son travail au grand magasin Zaire, à 2 pas de Morrissey Boulevard. Il avait travaillé jusqu'à minuit parce qu'il faisait l'inventaire ce week-end-là et qu'il était stagiaire dans le cadre d'une formation en gestion. Selon les journaux, Augie Williamson avait 20 ans. Il avait été distingué pour ses performances au baseball à Boston English, où il avait obtenu une moyenne générale de B- tout au long de ses 4 années de lycée. Après son diplôme de fin d'études, il avait travaillé dans une pizzeria de Mattapan Square avant d'être accepté dans cette formation en gestion chez Air. Mary Pat se dit qu'elle a déjà vaguement entendu Dreamy lui donner certains de ses détails au fil des années. Vaguement entendu parce qu'elle ne l'écoutait que vaguement. Dreamy a 2 filles, Ella et Soria. Mary Pat est au courant, mais elle ne se rappelle jamais leur nom. Élevée dans le même foyer qu'Augie, avec le même père, le mari de Dreamy, Reginald, un homme poli, respectueux et gentil. Dreamy travaille avec Mary Pat et Reginald est employé de bureau au service des travaux publics de la ville. Ella est au lycée, Soria est en 5e. Tout cela donne l'image d'une famille honnête de la classe ouvrière, avec des perspectives d'avenir. Augie n'avait aucun antécédent judiciaire. Elle tombe sur une photo d'Augie en tenue de baseball dans le Herald American d'hier.
Regarde comme ils essaient de le faire passer pour un petit saint.
C'est Dottie qui vient tout à coup de se poster au-dessus d'elle, un mégot éteint entre les lèvres. Elle l'allume maintenant avant de poursuivre.
Ils n'arrêtent pas de dire que c'était un bosseur, que son père est un bosseur et bla bla bla. On verra bien.
Elle hoche la tête en direction des autres filles.
On verra bien.
Mais, dit Mary Pat tranquillement.
Quoi ?
Dottie se penche pour l'écouter. Mais c'est le fils de Dreamy. On connaît toutes Dreamy, et on sait toutes que c'est une bosseuse. Les autres filles murmurent et échangent des regards de possibles acquiescements.
Dottie ne veut pas en entendre parler. Il arrive que les mères soient des saintes. On en voit des exemples tous les soirs aux infos. Mais les fils, Mary Pat. On le sait bien toutes. C'est des criminels nés. Ils n'ont pas de père, alors ils...
lui avait un père.
Et regarde où ça l'a mené.
Doty ricane et balaie toutes les autres du regard.
Dreamy est peut-être bien sympa, mais qui laisserait son porte-monnaie avec son fils seul dans cette pièce? Est-ce qu'il y en a une?
Toutes les filles secouent la tête. Doty se retourne vers Mary Pat.
Et toi? Fiche-lui la paix, Dot, dit Suze. Elle traverse un truc, là.
Dot adresse un sourire compatissant à Mary Pat.
Et je te demande juste, est-ce que tu laisserais ton porte-monnaie sans surveillance avec cet Oggy Williamson?
Non, répond Mary Pat. Mais avant que Dot ne puisse fanfaronner, elle ajoute « Je ne le ferai avec personne. »
Ok. Est-ce qu'il y en a une ici qui laisserait sa fille seule avec lui?
Elle secoue toute la tête. Dot regarde Mary Pat avec un air triomphant. Elle recule d'un pas quand elle voit ce qui s'anime dans les yeux de Mary Pat. Mary Pat se lève, un papier froissé dans la main qu'elle ne se souvient pas avoir froissé. « Je ne peux laisser ma fille seule avec personne parce que je n'arrive pas à la retrouver, putain de merde !» Doty lève une main.
« Je suis désolée, Mary Pat. »
Mary Pat incline la tête en entendant cela.
« Ah oui? Vraiment?
Parce que tu l'ouvres beaucoup, Doty, sur les nègres. » Sur le fait que c'est tous des paresseux, qu'ils viennent tous de foyers brisés, que les hommes n'arrêtent pas de baiser à droite et à gauche, qu'ils abandonnent leur famille et n'élèvent pas leurs gosses. Un petit sourire méchant monte jusqu'aux petits yeux verts de Doty.
Parce que c'est la vérité.
Et une question qui trotte dans la tête de Mary Pat depuis un moment, peut-être depuis toujours, qui sait, parvient jusqu'à ses lèvres. Mais... c'est aussi une vérité qui te concerne, pas vrai? Certaines filles laissent échapper des bruits audibles, quelque chose entre le hoquet et le gémissement.
Qu'est-ce que tu viens de dire, là?
Demande Doty. Tu ne viens pas d'un foyer brisé? Ton mari n'a pas baisé à droite et à gauche avant de t'abandonner et te laisser élever seul tes gosses? J'ai remarqué que ceux qui déblatèrent le plus sur les gens de couleur et leurs défauts, généralement, ils ont exactement les mêmes défauts. Tiens, c'était quand la dernière fois que tu as fait ne serait-ce que la moitié du travail que le reste d'entre nous fait ici? Doty serre le poing et se précipite vers Mary Pat.
Écoute un peu, Doty!
Tu vas desserrer ce poing avant que je te l'arrache et que je te l'enfonce dans ton gros cul. Doty jette un coup d'œil aux autres filles. Au bout de quelques secondes, elle essaie de rire. Mais quand son regard revient se poser sur Mary Pat, ses petits yeux verts sont remplis de peur. « Je ne me répéterai pas, » dit Mary Pat. Lentement, les doigts de Doty se déplient. Elle essuie sa paume sur son pantalon.
« Tu n'es plus toi-même.
» Elle se tourne vers les filles.
« Elle n'est plus elle-même. On ne peut pas lui en vouloir. »
Elle tire une bouffée de sa cigarette, son coude posé sur la paume de sa main pour l'empêcher de trembler. Elle tourne son regard de nouveau vers Mary Pat.
« Qui pourrait t'en vouloir ?»
Elle contracte son visage en une grimace qui est censée ressembler à de la compassion. Elle cligne des paupières une fois, juste une fois, pour faire savoir à Mary Pat que c'est un instant qu'elle se gardera d'oublier. De pardonner. Puis, esquissant un sourire triste, elle lâche, avec une affectation destinée à la salle,
« Ma pauvre chérie !»
La pause terminée, Mary Pat s'attarde pour fumer une autre cigarette et lire les journaux. Si cela pose un problème aux sœurs, qu'elles viennent en discuter avec elle. Étant donné son humeur actuelle, il vaudrait mieux pour elle qu'elle soit... diablement courageuse. Des témoins, dont le nom n'est pas cité, ont vu un homme noir entrer en courant dans Columbia Station à 20:00, suivi par au moins 4 jeunes blancs. Un témoin pense avoir vu 4 garçons avec des cheveux longs, un autre pense que c'était 2 garçons et 2 filles. Est-ce qu'une de ces filles était la mienne ? Se demande Mary Pat, mais elle ne le se demande pas vraiment. Jules ! Putain de merde, Jules ! Un témoin a clairement entendu quelqu'un siffler à la manière dont on siffle un chien. Un autre a entendu quelqu'un crier « On veut juste discuter ». La police a établi qu'il y avait d'autres personnes sur le quai quand Augie Williamson et ses quatre poursuivants sont arrivés. Elle demande à ces personnes de se faire connaître. Elle pense, bien que cela ne soit pas encore prouvé, qu'Augie Williamson est tombé ou a été poussé devant la rame. Que le choc à la tête l'a fait pivoter sur le quai et que, sans que l'on sache comment, il est ensuite tombé sur la voie et a roulé sous le rebord du quai. Tout cela lui semble sacrément louche. Si Mary Pat veut bien croire que quelqu'un pourrait tendre la tête devant une rame de métro en marche sans que le reste de son corps ne soit heurté et projeté sur les rails devant la rame, elle ne peut en aucun cas admettre qu'Augie ait pu ensuite tituber sur place assez longtemps pour que la rame soit entièrement passée, puis tomber comme par hasard en avant sur la voie et rouler en arrière sous le rebord du quai. Aucune drogue n'a été trouvée sur lui. Les journaux prennent bien soin de le mentionner. Tout ce que cela signifie pour les personnes autour de Mary Pat et pour la plupart des Blancs de West Roxbury, de Neponset, de Milton et de partout ailleurs dans la ville et ses environs où la population est restée uniformément blanche, c'est que ceux qui ont tué Augie Williamson, intentionnellement ou par accident, l'ont dépouillé de la drogue qu'il avait sur lui. Et s'il n'y avait pas dans tout cela un aspect qui la concernait personnellement, si Augie n'était pas le fils de Dreamy Williamson, si Jules n'était pas une suspecte potentielle dans sa mort, Mary Pat s'en serait désintéressée tout autant que les autres. Mais en lisant les journaux, fumant une Virginia Slim après l'autre, elle laisse émerger dans son esprit l'image d'un Augie Williamson qui pouvait très bien ne pas être un dealer, qui ne venait certainement pas d'un foyer brisé, qui n'a peut-être pas essayé de voler une voiture ou de voler quelqu'un pour pouvoir se payer un taxi, mais qui était tout simplement un jeune de 20 ans dont la voiture est tombée en panne dans le mauvais quartier. Et de quel quartier s'agit-il, Mary Pat ? De mon quartier. Quand elle sort du travail, à la fin de son service, l'AMC Matador couleur caramel de Marty Butler est garée le long du trottoir. Weeds se tient près de la portière arrière et dès que Mary Pat sort de Meadow Lane Manor, il ouvre cette portière et elle aperçoit Marty, assis à l'arrière. Pendant un instant, elle demeure immobile et reste là, sur le trottoir, faisant comme si elle avait plusieurs options. Une fois que cette petite fantaisie se heurte à la réalité, elle monte dans la voiture à côté de Marty. Il sourit, lui embrasse la joue et lui dit qu'elle a l'air toujours aussi jolie que le jour où elle a épousé Dukie. Façon de lui rappeler qu'il était présent à son premier mariage. De lui rappeler que Dukie travaillait pour lui. De lui rappeler qu'il n'est pas seulement maître du présent, il est aussi maître de l'histoire. Quand on voit Marty, on pourrait croire qu'il sort tout droit d'une publicité pour les magasins J.C. Penney. Le mannequin père de famille en cardigan, avec un ballon de football incliné dans la main ou feignant de rire avec d'autres mannequins pères de famille. Coupe de cheveux carrés, mâchoire carrée, fossette au menton. Des yeux qui sourient sans la moindre parcelle de joie. Jamais un cheveu qui dépasse, jamais de poils ou d'ombre sur les joues. Les dents blanches et régulières. Il est beau de la plus fade des façons. Et on dirait qu'il n'a pas vieilli depuis au moins 20 ans. Ce qui a fait que Marty est Marty reste un mystère. Il y en a qui disent que c'est son temps de service en Corée. D'autres chuchotent aussi bas que possible qu'il a toujours été complètement fêlé. Un gars, avec lequel Dewey avait l'habitude de boire et qui avait grandi avec Marty dans Linden Street, avait raconté à Dewey
« À l'époque du lycée, tu te souviens, Marty avait une sœur qui est morte de la tuberculose. Au lieu d'aller à son enterrement, il est allé jouer au basket. Il a marqué 24 points. »
Tandis que Weeds les ramène à Southie, Marty demande à Mary Pat
« Tu seras à la manifestation vendredi ?»«
Ah, oui, c'est vrai. » La vérité, c'est que Mary Pat avait oublié. Cette scandaleuse histoire de busing qui semblait enflammer tout le monde dans Southie en ce moment et qui l'avait enflammée jusqu'à 3 jours auparavant, lui était sortie de la tête.
« Ah oui, c'est vrai !» répète Marty avec un petit rire. « C'est seulement l'avenir de notre mode de vie qui est en jeu, Mary Pat. »«
Je sais, » dit-elle, « je sais. »
« Est-ce que tu sais quels sont les pays vraiment heureux ? Le Danemark, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Islande. Tu n'entends jamais rien de mal au sujet de ces endroits. Ils ne font pas la guerre, ils sont préservés de toute agitation. Tu ne les vois jamais aux infos, à la télé. Ils connaissent la cohésion et la prospérité parce qu'ils restent entiers. Ils restent entiers parce que les différentes races ne se mélangent pas. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de races différentes à mélanger. »
Il pousse un soupir, soufflant l'air entre ses lèvres.
D'abord, ils nous disent où nos gosses peuvent aller à l'école. Ensuite, ils nous diront quel Dieu on a le droit de prier.
Tu pries ? Elle n'a pas l'intention de l'insulter, mais il ne lui est jamais venu à l'idée que quelqu'un comme Marty Butler s'adonne à la prière. Il hoche la tête.
« Je prie tous les soirs. »
À genoux ? Elle a vraiment du mal à se le représenter.
« Sur le dos. Dans mon lit. »
Il lui fait une grimace amusée.
« Principalement pour demander la sagesse. Parfois, pour des faveurs spéciales pour des membres de notre troupeau. »
Notre troupeau. Le sien et celui de Dieu. Tout s'explique.
Tu te souviens quand la petite Deirdre Howard a eu le cancer? Bien sûr, elle n'avait que 7 ou 8 ans. J'ai beaucoup prié à ce moment-là et tu sais pas? Le cancer est entré en phase de rémission. Le Seigneur écoute, Mary Pat. Le tout, c'est d'avoir le cœur pur quand tu lui demandes quelque chose.
Et ça va me ramener ma fille Jules? Il lui fait un sourire lointain et lui tapote la jambe. Il lui étreint fermement la cuisse au-dessus du genou. Son pouce et son index s'enfonce carrément dans la chair. Puis il tapote de nouveau légèrement avant d'enlever sa main tandis qu'il traverse le pont pour entrer dans Southie.
« Et comment va ta voiture ? » demande-t-il. « Elle roule toujours ?»
Elle hoche la tête. Aussi improbable que ça puisse paraître. Il adresse à son propre reflet ce sourire lointain bien à lui.
Il y a des choses qui ne savent pas quand s'arrêter.
Pourquoi le faudrait-il ? Demande-t-elle. Tant qu'elle me transporte là où j'ai besoin d'aller. Il la regarde et remue les sourcils de haut en bas, comme s'il partageait une plaisanterie.
Et ton appartement, là, à Commonwealth ?
Elle hausse les épaules. Toujours pareil ?
Parce que je suis entrée en possession de quelques pots de peinture, Mary Pat. Des caisses entières. Tout ça, c'est dans un entrepôt là-bas, dans West Second. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça t'intéresserait pas de donner un coup de neuf à ton intérieur? D'y mettre un peu de couleur?
Si tu as quelques pots dont je peux te débarrasser. Bien sûr, Marty, ce serait chouette. Il agite la main devant l'absurdité de la proposition.
« Non !» non, ma chérie. Il ne nous viendrait jamais à l'idée de te laisser faire tes peintures toi-même. Tu t'en vas quelque part pendant quelques jours. Nous, on débarque et on te repeint tes murs comme des professionnels. Tu vas revenir dans un appartement tellement joli que tu ne le reconnaîtras même pas. Ça en fait des travaux ces temps-ci, non, Marty? Comment ça? Eh bien, d'abord chez toi et maintenant chez moi. Il la regarde d'un air tellement déconcerté qu'elle comprend qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. La maison derrière le Fields, dit-elle. De nouveau, un regard surpris, toujours pas la moindre idée. Weeds, depuis le siège avant, intervient.
« Elle parle des travaux qu'on fait dans la cuisine, patron. »«
Ah !» dit Marty. « Bien sûr, bien sûr !»
Une autre petite tape sur le genou de Mary Pat.
« Le problème, c'est que je pense pas à cette maison comme étant chez moi, Mary Pat. » Je vis toujours au même endroit, là où j'ai toujours vécu, sur Linden. »
Elle sourit et hoche la tête, essayant de ne pas le laisser lire dans la partie de son cerveau qui sait qu'il ment. Brian Shay a affirmé qu'il travaillait dans la salle de séjour. Weeds vient d'affirmer que c'était la cuisine. Et Marty n'en avait pas la plus petite idée avant que Weeds ne lui donne le renseignement.
« Bon... en tout cas, pense à la peinture, » dit Marty.